Bonjour à toutes et à tous. Et comme j'aime les défis, ce matin j'ai décidé de prêcher sur cette fameuse parabole de l'intendant malhonnête, comme certaines Bibles l'appellent l'intendant infidèle. Et je dois dire que je me réjouis beaucoup de vous partager ce message. Alors, effectivement, il fait chaud. Mais comme hier, par exemple, j'étais déjà à un mariage, à une célébration de mariage, et que j'ai déjà eu chaud hier, je me suis dit que j'allais aussi avoir chaud aujourd'hui. Et j'ai gardé une chemise longue, mais j'ai quand même pris une chemise manche courte, une chemise Hawaï, que j'ai dans mon bureau et que je mettrai à la suite de ce culte. Et donc, nous lisons en Luc, chapitre 16, les versets 1 à 13. Jésus dit aussi à ses disciples, « Un homme riche avait un intendant. On vint lui rapporter qu'il gaspillait ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire à ton sujet ? Rends compte de ta gestion, car tu ne pourras plus gérer mes biens. » L'intendant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens ? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux quand je serai renvoyé de mon emploi. » Il fit venir chacun des débiteurs de son maître, et dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ? Je dois 100 tonneaux d'olives. » Répondit-il. Il lui dit, « Voici ton reçu, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? Je dois 100 mesures de blé. » Répondit-il, et il lui dit, « Voici ton reçu, écrit 80. » Le maître fit l'éloge de l'intendant malhonnête à cause de l'habileté dont il avait fait preuve. En effet, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne le sont les enfants de la lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables ? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le deuxième, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. La parabole de l'intendant malhonnête. Et à la première lecture, cette parabole nous laisse tous un peu perplexes. Parfois même à la seconde lecture. Qu'est-ce que Jésus a bien pu enseigner à ses disciples en utilisant le récit d'un intendant malhonnête, d'un gestionnaire qui escroque son maître. Sommes-nous là encouragés à la malhonnêteté ? En apprenant la conduite de l'intendant, le récit nous explique la réaction du maître. Le maître fit l'éloge de l'intendant malhonnête à cause de l'habileté dont il avait fait preuve. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui se fait escroquer et dont la première réaction est de faire l'éloge de l'escroc? Avez-vous déjà vu un patron floué vanter les mérites de son employé? Et la question qui se pose ici, c'est « Mais de quelle habileté est-il question ?» Et non, cette parabole ne nous encourage pas à être malhonnête. Cette parabole ne nous encourage pas à l'infidélité. Et j'en prends pour preuve ces versets qui suivent ce récit. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables ? On voit bien que là, lorsque Jésus enseigne ses disciples, ce n'est absolument pas à être malhonnête. Et ce que Jésus enseigne au travers de cette histoire, il nous enseigne comment gérer les biens qui nous sont confiés. Ou plutôt, il nous encourage à user d'habileté dans ce qui nous est donné. Alors, bien entendu, lorsque on lit un texte, un récit comme ça, tous les experts ne sont pas d'accord. Tous les spécialistes apportent des petites variations, dirons-nous, quant à l'interprétation de la parabole. Et face à cette stratégie de l'intendant de réduire la dette de ses clients, que les clients du maître ont, plusieurs hypothèses ont été avancées. Et grosso modo, elles se divisent en deux groupes. Il y a d'un côté ceux qui interprètent ce geste dans un sens positif, où ils vont chercher une raison, ils cherchent une excuse, quelque chose qui justifie ce geste, et de l'autre, ceux qui acceptent l'escroquerie et qui pourtant dégage quelque chose du texte. Alors, la première explication qui est donnée, c'est que la réduction effectuée par l'intendant correspond au montant du taux d'intérêt que le patron avait appliqué. Et comme la Bible interdit le taux d'intérêt, comme la Bible interdit d'avoir des intérêts sur un prêt, ce qu'elle appelle l'usure, l'intendant a bien agi parce qu'il a retiré cette somme qui était injuste. Et un peu dans la même veine, d'autres commentateurs avancent plutôt l'idée que les intendants, à l'époque, étaient rémunérés sur une part qu'ils ajoutaient aux transactions. Et comme l'intendant était sur le point de perdre son emploi, il a décidé de retirer la part qu'il avait ajoutée au client, comme de toute façon il n'allait pas en profiter. Et donc, le retrait de l'intérêt ou de la part de l'intendant sont les deux pistes qui sont avancées pour justifier la réaction du patron, comme si l'intendant était dans son bon droit. Alors j'entends ces propositions, mais j'ai moins d'expérience que certains d'entre vous, mais côtoyant l'être humain depuis bientôt 30 ans, mon expérience me dit que la réaction du maître est paradoxale. Je n'ai jamais vu quelqu'un se faire voler et après faire l'éloge du voleur. Voilà. Vous voyez, là, c'était un coup net et précis. Là, ils ont bien cassé la vitre. Oula, c'est du bon travail, hein. Ils ont été efficaces. Non. La dernière alternative qui est proposée, c'est de considérer l'acte de l'intendant comme mauvais, comme ayant effectivement volé son maître. Et je dois avouer que c'est difficile de trancher sur ces différentes alternatives. Cependant, je dois quand même vous avouer que la dernière, celle du délit de l'intendant, obtient mes faveurs. Et elle obtient mes faveurs parce que la réaction paradoxale du maître, celle de ne pas s'enflammer de colère, mais de louer son serviteur, ajoute une tension et un relief au texte. Même une personne mauvaise, même une personne malhonnête, et je veux même aller plus loin, même la pire des personnes, peut être habile. La figure de l'intendant est intéressante. Je l'aime bien. Le propre de l'intendant, c'est de gérer ce qui ne lui appartient pas. Et dans ce sens, l'intendant se rapproche de la figure que j'ai parlé précédemment, il y a de ça quelques temps, celle de l'héritier. Je vous avais dit l'héritier, c'est celui qui un jour possédera tout, mais qui aujourd'hui ne possède rien. Quant à lui, l'intendant, c'est celui qui gère tout, mais c'est celui surtout à qui rien n'appartient. Et non seulement rien ne lui appartient, mais sa situation est précaire. Lorsque je suis l'intendant, ma situation est précaire. Elle est précaire, premièrement, parce que du jour au lendemain, je peux tout perdre. Du jour au lendemain, je peux être licencié et perdre la gestion de tout. Et tous ces commerçants qui jusque-là venaient un peu me courtiser pour avoir des bonnes affaires avec mon patron, du jour au lendemain, je deviens une personne quelconque pour cela. Et donc, l'intendant est précaire non seulement parce qu'il peut tout perdre, mais aussi parce que, qu'importe l'investissement, qu'importe l'effort, qu'importe la sueur qu'il va donner au travail, qu'importe la qualité de son travail, jamais rien ne lui appartiendra. Et j'ai beau être le meilleur intendant, j'ai beau exceller, jamais rien ne m'appartiendra. Parce que ce que je gère n'est pas à moi. Et ce que je trouve frappant, c'est que nous aussi, en tant que croyants, nous sommes des intendants. Tout d'abord, nous sommes les intendants de l'Évangile. Il n'existe pas de clause d'exclusivité ou de clause de monopole dans l'Évangile. Lorsque je reçois l'Évangile, je deviens automatiquement le témoin. Et en devenant le témoin de ce message, en devenant le témoin de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, j'en suis son intendant. Mais je ne peux pas conserver pour moi. Ça ne m'appartient pas au propre. Ça m'appartient parce que j'ai été racheté par Dieu, parce que Christ s'est donné pour moi. Ensuite, deuxièmement, et là je m'adresse tout particulièrement à moi-même, l'Église est dirigée, l'Église est conduite par des intendants. Qu'importe la sueur, le sang, la créativité, l'excellence, qu'importe tout ce que je ferai, jamais la communauté de Villars m'appartiendra. Et j'ai beau prier 24 heures par jour, j'ai beau lire ma Bible tous les jours, j'ai beau encourager, j'ai beau donner, visiter, reprendre, jamais vous ne m'appartiendrez. L'Église et vous appartiendrez toujours seulement à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes que les intendants de son royaume, que les intendants de son Église. Tout appartient à Dieu. Et troisièmement, finalement, et c'est peut-être l'aspect le plus déstabilisant, l'aspect qui nous challenge le plus, Paul écrit aux Corinthiens et il leur dit, au premier épître aux Corinthiens, au chapitre 6, « Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. » Car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Nous appartenons à Dieu. Je ne me possède pas. Mais c'est Dieu qui me possède. Je suis le propre intendant de ma propre vie. Et la gestion de ce bien peut m'être retirée du jour au lendemain, que je sois honnête ou malhonnête. Et qu'importe l'effort que nous donnons, qu'importe la sueur, les larmes, nous ne nous appartenons pas, mais nous appartenons à Dieu, parce qu'il nous a rachetés à grand prix. Et donc on voit bien que cette condition d'intendant, notre condition actuelle, vibre avec une légère fragilité ou un semblant de précarité. Et ce que Jésus enseigne dans cette parabole, ce qu'il nous enseigne, c'est à opérer un transfert de valeur. C'est-à-dire de transférer du temporaire à l'éternel. Et pour ça, je vais prendre l'image de mon porte-monnaie. Alors, ça tombe bien, je voulais parler de mon porte-monnaie, mais je ne l'ai pas pris avec moi ce matin. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, après un voyage sous des latitudes étrangères, de revenir avec des petits centimes, 1 cent, un centime d'euro? Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'avoir ces petites monnaies dans votre porte-monnaie? Alors moi, ça m'arrive, et je dois dire que ces petites monnaies qui servent pas à grand chose, souvent elles restent longtemps dans mon porte-monnaie. Ça m'est arrivé de les garder 3-4 ans. Donc pendant 3-4 ans, je me suis baladé avec de la monnaie qui ne servait pas à grand chose. Alors, je voulais vous montrer des petites monnaies. Malheureusement, il s'est passé la même chose qu'avec mes t-shirts. Ma femme a sonné le glas de ces petites monnaies. Et je voulais les utiliser pour prêcher ces petites monnaies et dire, vous voyez, elles ne sont pas inutiles. Maintenant, elles ont une valeur spirituelle. J'ai transformé ces petites monnaies pas très utiles en quelque chose d'utile en prêchant avec. J'ai passé du temporaire à l'éternel. Voilà. Alors, avec ces petites monnaies, juste, il faudra juste pas mettre toute votre petite monnaie dans la collecte à la fin du culte. Samy sera pas très content d'avoir des petits centimes étrangers, des petites lires, des choses qui viennent de gauche à droite. Mais ce que Jésus enseigne dans cette parabole, c'est à nous donner ce discernement. Ce discernement pour juger cette petite monnaie et faire la distinction entre ce qui est utile et ce qui l'est moins. Pas du tout. Et de la même façon que l'intendant anticipe son licenciement, de la même façon dont l'intendant malhonnête prépare son avenir, que nous aussi, nous préparions notre avenir. Et l'habileté qui nous est demandée, c'est de comprendre, c'est de prendre conscience que nous ne sommes que des intendants. Actuellement, nous gérons ce qui ne nous appartient pas, et non seulement nous gérons ce qui ne nous appartient pas, mais nous gérons du temporaire. Pour l'instant, mon corps est temporaire. Même mon porte-monnaie l'est. Et donc l'encouragement que Jésus adresse à ses disciples, c'est tout le contraire. Tout le contraire de la malhonnêteté. Mais il dit, comment se fait-il qu'un gestionnaire malhonnête, qu'un escroc, anticipe sur le futur et que vous, fils de la lumière, vous qui avez reçu le Christ, vous qui êtes dépositaire de sa grâce, vous ne vous prépariez pas à ce qui vient? Non. Jésus nous encourage à discerner entre le temporaire et l'éternel et à investir au bon endroit.